Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan pour la troisième saison. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.
Et ciao à tous, ciao à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le derby d'Italie, donc Juve-Inter, qui s'est joué ce dimanche soir, qui est soldé sur un match nul, un but partout de Vlahovic et de Lautaro. Aujourd'hui, pas d'invité, on va simplement parler à la foule, Cédric et moi. Et donc, salut Cédric, comment ça va?
Salut Giuliano, salut à tous. Bah, écoute, ça va. On va essayer d'être moins soporifique que ce derby d'Italie. Ce sera pas dur, non, je pense.
C'est pas terrible. Hein.
Ouais, c'était pas un grand match. C'était pas une belle publicité pour la Serie A.
Surtout que samedi, moi je regardais Liverpool, City Liverpool. Voilà, c'est pas le même rythme. Hein. Je regarde de temps en temps la Première Ligue, mais et là c'était flagrant que c'est pas le même foot.
Non, mais c'est ça, c'est au-delà des joueurs, parce que forcément, les top équipes de Première Ligue, désormais, ont aussi des effectifs meilleurs, mais c'est vrai que c'est dans les intentions, c'est dans le rythme, ça fait de la peine. Et quand on voit même des équipes comme Frosinone, par exemple, qui font du beau football avec des jeunes joueurs qui ne sont pas forcément connus et compagnie, c'est vrai qu'on se dit que des grandes équipes comme ça, avec les moyens, avec les effectifs, peuvent nous proposer bien mieux. Bon, mais écoute, on va commencer là-dessus, justement. Déjà, pour toi, est-ce que c'est un bon point de prix pour l'Inter?
Bah, oui, ça peut pas être un mauvais point de faire un match nul à la Juve, qu'on tient à l'écart comme ça, parce qu'on a l'avance au classement, on a 2 points d'avance sur eux. Évidemment que la victoire, c'est parfait, voilà, on aurait pris de la distance, mais voilà, là, on tient le concurrent à distance de 2 points. En plus, faire match nul à la Juve, c'est pas facile. Je sais pas. Plus j'avais vu la stat, ça remonte à quand notre dernière victoire à la Juve? Tu te souviens, toi?
Ouais, c'était il y a 2 ans pour la première saison d'Inzaghi, victoire 1-0. Mais sur
Ah,
les
voilà.
dix, où c'est la seule victoire sur la pelouse de la Juve depuis 10, sur une période de 10 ou 15 ans, un truc comme ça. Donc,
ouais, c'est ça. À chaque fois, c'est compliqué là-bas. Donc, ouais, bon point pour moi et pour toi.
Oui, aussi un bon point, surtout quand tu es mené, parce que la Juve, traditionnellement, et particulièrement cette saison, prend très peu de buts et très dur à remonter. Donc voilà, c'est surtout ça, le fait d'avoir cédé et d'avoir su réagir tout de suite, de pas avoir une équipe de l'Inter peut-être aller en panique. Ça, c'est plutôt positif. Après, clairement, la seconde période est décevante parce qu'il y avait quand même la place, je pense, de gagner. Si tu gagnais, oui, ce n'est qu'un match de championnat. Derrière, il reste, quoi qu'il arrive, 25 matchs à jouer. Mais tu mettais, je pense, un gros coup sur la tête de la Juve et de tes concurrents.
Et d'ailleurs, il me semble que c'est la première fois qu'on concède le premier but.
Oui, c'est la première fois que l'Inter était mort cette saison. Oui.
Ouais, c'est à chaque fois, on ouvrait le score. Et là, bon, perte de balle de Dumfries, Mkhitaryan qui suit une balle, Vlahovic. Enfin, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une nonchalance sur ce but qu'on se prend totalement évitable, quoi.
Oui, même De Vrij, effectivement, qui... Enfin... Tu connais Vlahovic, tu sais qu'il doit vraiment être sur lui et pas lui laisser d'espace. Et là, tu sens que tu regardes un petit peu Chiesa, qu'il n'est pas trop. Après, le reste de son match est plutôt beau, hein, au néerlandais. Mais là, sur l'action, clairement, il se désintéresse un peu trop, je trouve, de Vlahovic quand tu sais que Chiesa, il peut le donner qu'à Vlahovic parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc, voilà, c'est. Mais bon, dans l'autre sens, c'est pareil. Le but de l'Inter qui est aussi signé les deux attaquants avec Thuram qui a trouvé Lautaro, c'est la même chose. Thuram qui, la façon, la puissance avec laquelle il passe. Et puis Bremer, et puis ensuite Lautaro, l'appel contre appel pour passer devant Gatti, c'est très fort aussi.
Ouais, ils confirment, hein, le duo que ils sont en forme, ils arrivent à bien se trouver. Il y a une bonne synergie entre les deux. Et donc ça fait 13 buts en 13 matchs de Serie A pour Lautaro. Et Thuram est à son 6e, 16e passe D, c'est
C'est sa
ça?
sixième passe décisive, c'est le meilleur passeur du championnat et surtout 4 passes pour Lautaro sur les 6. Donc, ça confirme le lien qui se crée de plus en plus entre les deux.
Et Lautaro qui a marqué donc 27 buts pendant l'année 2023, l'année civile. Et jusqu'ici, enfin, depuis l'année 2000, j'ai vu qu'en Serie A, il n'y avait que 2 joueurs qui ont fait mieux. C'est Milito en 2012 avec 28 buts et aussi Vieri avec 28 buts en 2001. Donc, Lautaro bien parti pour aussi rentrer un petit peu plus dans l'histoire. c'est pas une stat incroyable, mais c'est chouette de voir progresser à ce point-là et de mettre plus de buts sur une année civile que Milito Aguirre, qui sont vraiment des grands joueurs du club, quoi.
Surtout, ça confirme une régularité de la part de Lautaro, qui effectivement, en début d'année 2023, avait eu un petit trou, février, je crois, de mémoire, où il avait un peu de mal, mais c'est vrai qu'on le voit vraiment régulier depuis, ouais, depuis avril-mai. Il enchaîne vraiment les gros matchs, et surtout dans les matchs importants, parce que Lautaro, c'est pareil, contre la Juve, il avait un peu plus de mal. C'est l'un des clubs de Serie A contre lequel il a marqué le moins de buts. Je crois que c'était 3 buts avant ce match, dont un penalty. Voilà, pareil, le voir marquer dans un match important, le voir égaliser, ça confirme encore une fois sa progression et ce rôle de leader qui est toujours plus le sien.
On l'a déjà dit, mais pour moi, il y a un avant et un après Capitana pour Lautaro. C'est depuis qu'il a reçu le brassard, il y a quelque chose, voilà, qui a changé. Il a pris ses responsabilités. Ce brassard l'a transcendé. Après, encore une fois, on est tôt dans la saison, on verra, mais c'est l'impression qu'il donne jusqu'à présent, parce qu'il marque dans les matchs importants et comment il est régulier.
Oui, puis même son comportement, parce que ça a toujours été un joueur collectif. Il était même parfois trop, parce qu'il a toujours fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Il en faisait encore plus quand il jouait avec Lukaku, parce que Lukaku est un joueur qui défend moins que ne défend Thuram. Donc il devait encore plus aller dans les replis, encore plus aller dans le pressing, alors que Thuram fait un gros, gros travail là-dessus. Mais oui, en plus, c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui rechigne jamais à la tâche. Et c'est pas un attaquant comme on a connu Icardi pendant des années, qui lui attendait le ballon tranquillement et était très très fort là-dedans, mais voilà, dans le jeu, il était très peu utile, et même dans le travail collectif défensif, très peu. Lautaro, c'est vraiment un joueur complet, ça aussi c'est appréciable, et je pense que le fait qu'il montre à ce point l'exemple à ses coéquipiers, ça te donne du courage parfois quand tu es fatigué, quand à la dernière minute, tu vois que lui lâche pas, donc les autres font pareil.
Et vraiment, il prend ses responsabilités aussi quand il faut prendre la parole près de l'arbitre ou même auprès des joueurs. Je sais pas si tu te souviens de cette phase où le ballon revient, il veut la reprendre au volley et il y a Dumfries qui le gêne et il rate du coup sa volée. Il engueule Dumfries et lui dit « Qu'est-ce que tu fous là? Tu dois être sur ton côté droit. » Voilà, il s'énerve un petit peu, mais il dit les choses, quoi. Et à chaque fois qu'il y a aussi une intervention avec l'arbitre, quelque chose un peu chaud, ben, c'est toujours lui qui est là. Il essaie parfois de contenir Barella, c'est pas toujours évident. Donc, ouais, il y a une vraie évolution sur plusieurs points, ça fait plaisir. Et encore une fois, on va voir comment ça évolue, comment ça tient tout au long de la saison, quoi.
Et d'ailleurs, il prend moins de cartons bêtes, je trouve, depuis qu'il est capitaine aussi, que ce soit dans la protestation ou dans parfois les tacles un petit peu. S'il avait l'habitude parfois, sur des retours défensifs, de faire des tacles un peu d'énervement, plus qu'autre chose, il prenait des cartons jaunes bêtes. Là-dessus aussi, je trouve qu'il s'est un peu calmé, et c'est une bonne chose aussi là-dessus. Alors, moi, je voulais évoquer avec toi un homme. C'est un petit peu un aparté dans notre débat, mais moi, je trouve qu'il a, de toute la seconde période qui a été vraiment. La première période n'était pas si mauvaise. Il y a eu 2 buts. Il y a eu quelques occasions pour l'Inter. Seconde période, ça a été le néant absolu pour moi, mais il y a quelque chose qui a créé un petit peu de pétillant sur le côté droit de l'Inter, l'entrée de Cuadrado, qui a été bien sifflé comme il faut. On va dire c'est normal. Voilà,
Normal.
c'est normal. Voilà, Lukaku, il a eu le même traitement. Enfin, voilà, chaque joueur qui lorsqu'il trahit en quelque sorte, on va dire c'est mérité quand ça va pas au-delà de ça, donc des sifflets à chaque fois qu'il touchait le ballon. Mais je trouve qu'il a apporté de l'énergie, il a apporté des dribbles, il a apporté des courses. Bon, il a pris un carton jaune direct, il en a provoqué un aussi. Il a essayé, lui, un petit peu de réveiller un petit peu l'équipe et ce match qui était tombé dans une certaine torpeur. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ben, je pensais surtout qu'il a réveillé le côté du jeu de l'Inter, là où je trouve que la Juve a décrit a bien préparé son match, où il a muselé en fait les pistons. Di Marco a été nul, Dumfries, tu disais qu'il a été bon. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il a pas été terrible du tout, parce que à chaque fois il se retrouvait avec trois joueurs autour de lui, bah, qui bloquait les centres, et voilà, on savait pas faire notre jeu. Et Cuadrado, il arrivait avec sa technique, ses dribbles, voilà, en seulement quelques minutes, il a su créer des occasions, en sautant un homme, deux hommes, voilà, en faisant des centres. Donc, oui, c'est encourageant. On a déjà parlé de lui au niveau humain, ce qu'on a pensé et tout, mais là, au niveau sportif, ça peut être vraiment une bonne recrue, quoi. Il peut être vraiment intéressant. C'est dommage de ne pas l'avoir vu plus tôt. Jusque maintenant, il a été longtemps blessé. D'ailleurs, c'était même pas sûr, hein, qu'il joue hier. J'étais étonné de le voir rentrer. Mais c'est vrai qu'il a apporté quelque chose d'intéressant. Il a réveillé ce côté. En fait, il faut des dribbleurs, quoi. C'est comme Thuram, il est aussi bon parce que il dribble. C'est ce qui manquait ces dernières années. On n'avait pas de joueur qui savait passer un homme, et du coup, on ne savait pas créer d'occasion autre que par des schémas un peu classiques et travailler à l'entraînement. Là, ça apporte un peu plus de spontanéité et ça débloque des situations quand, au niveau tactique, l'adversaire prépare bien et on sait comment ils arrivent à contrecarrer les plans d'Inzaghi, quoi.
C'est vrai que sur les 2-3 dernières saisons, le meilleur dribbleur de l'Inter, à chaque fois, c'était Barella, donc, qui n'est pas du tout en profil de dribbleur. Donc ça prouve vraiment qu'il n'y avait personne d'autre au-delà du 3-5-2, qui est un schéma qui ne t'aide pas forcément à dribbler parce que tu n'as pas d'ailier. Mais c'est vrai que voilà, les pistons doivent dribbler plus et Cuadrado là-dessus apporte. Alors Inzaghi, après le match, a dit qu'il avait, comment dire, il s'était un petit peu sacrifié parce qu'il n'est pas prêt, en fait, Cuadrado. Mais comme Dumfries était pas, est revenu de sélection pas en grande forme. Voilà, il a serré les dents pour jouer et c'est peu probable qu'il soit titulaire par exemple contre Benfica. Cuadrado, il sera peut-être dans le groupe, mais pareil, il ne jouera pas plus de 20-25 minutes. Donc, sachant qu'on ne l'a pas encore dit, mais alors il y a eu les absents des deux côtés, hein, parce qu'on a vu par exemple le jeune Cavaglia au milieu de terrain qui était la surprise d'Allegri dans son
Allegri, ouais.
3-5-2, ouais, en
Il
Regista.
n'a pas été terrible, hein, d'ailleurs.
Non.
Enfin,
Ben.
il a été assez fantomatique.
Oui. Ben après Miretti et Locatelli, il était sûrement pas prêt, il n'était pas à 100%, donc il n'a pas voulu les risquer. Il a sûrement travaillé pendant 2 semaines avec ce jeune joueur, enfin jeune, 23 ans. C'est pas Camarda, quoi,
Bah, c'est
mais
ça.
23 ans. Bon, en Italie, c'est jeune, hein, en Italie, c'est jeune. Mais première titularisation pour lui, en tout cas, c'est vrai, assez fantomatique. Tu le disais, du côté de l'Inter, pas mal d'absents aussi derrière, avec Pavard et qui reviendra d'ici un mois à peu près. Et Bastoni, on verra s'il sera là pour le Napoli, mais c'est assez incertain. Et là aussi, ça a pénalisé, je pense, l'Inter dans la phase de construction, puisque ce sont les deux joueurs qui, lorsqu'on repart d'en bas, de Sommer, qui doivent un petit peu lancer et qui créent aussi le surnombre. Darmian et Acerbi savent le faire, mais moins, quand même, ils ont des moins bons pieds. Donc, ça aussi doit être un petit peu pénalisé l'Inter et Inzaghi dans ses choix aussi pour essayer de contrecarrer ce bloc bas et solide de la Juve.
Oui, et puis c'était compliqué vraiment de repartir. J'ai l'impression qu'ils étaient tellement bien dans le pressing au niveau de notre camp que, ouais, comme tu dis, on n'avait pas les joueurs à disposition pour essayer de combiner quelque chose, pour tenter de trouver une faille, en fait, dans la défense de la Juve. Parce qu'il y a un truc qui était assez flagrant, c'est que quand Sommer avait le ballon, aucun attaquant ne le pressait, mais dès qu'il faisait la passe, bah, tout le monde allait sur les défenseurs pour essayer de les presser. Et c'est aussi avec ce pressing que j'ai l'impression que la Juve s'est fait avoir sur son but, enfin, sur le but qu'ils encaissent. Et parce que faut vous le dire aussi, c'est la meilleure Juve que moi j'ai vue cette saison. J'ai vu quelques matchs de la Juve. Chaque fois, je disais, mais c'est pauvre, on va les éclater, ils sont nuls et tout. Alors que hier, bah, on le sait, un derby, c'est en dehors du temps, de tout contexte, c'est pas forcément la forme qui va compter. Et donc, je savais que fallait pas, je m'attendais à un 5-1, comme on a pu le faire contre le Milan. Ici, c'était vraiment une équipe qui a bien préparé son match. Et qui a été très bonne, pas qui a fait avec ses armes, parce que évidemment ils ont pas été hyper incisifs non plus, hein. On voit qu'ils ont des limites, mais c'est sûr, comme tu dis, que les absences ont manqué, surtout que Mkhitaryan, je l'ai vraiment pas trouvé terrible dans tous les secteurs de jeu.
Non, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il était un petit peu en deçà, alors que bon, il n'était pas en sélection. Peut-être qu'il a besoin de jouer tous les 3 jours, en fait. On dit toujours, mais Inzaghi ne le fait jamais reposer. Mais en fait, peut-être que quand même, si tu le fais reposer, il perd le rythme, je sais
C'est peut-être le secret, c'est peut-être ça.
pas. 2 semaines de
Alors
sabbat, je
qu'il a
crois.
37 ans, je sais plus combien.
Ouais, 36, mais c'est vrai, ouais. Mais voilà, d'ailleurs, il y a de grandes chances qu'il prolonge. Il fait partie des joueurs qui. Il devrait prolonger Darmian aussi, il devrait prolonger d'un an, mais enfin bon, ça c'est juste une parenthèse. Mais non, mais effectivement, oui, Mkhitaryan qui a eu un petit peu de mal, même si ouais, il a fait le travail aussi lui de pressing. Mais après la Juve, oui, ben, par rapport à la Juve contre Milan, qui gagne 1-0, par rapport à la Juve contre la Fiorentina, qui gagne 1-0, la seule différence, c'est qu'ils ont pris un but, en fait. Parce que le reste du match, contre la Fiorentina, je m'en souviens, ils marquent au tout début. Derrière, ils n'ont rien fait, mais ils n'ont rien concédé. Et c'est vrai que là où il est très fort, c'est peut-être plus facile de détruire que de construire dans le football, d'accord? C'est vrai qu'Allegri, on peut lui reprocher plein de choses, mais il arrive, en tout cas, à demander à ses joueurs, dont des joueurs comme Keza et Vlahovic, qui sont des joueurs talentueux, de se sacrifier pour le collectif, de faire un gros travail défensif. Je regardais les cartes des joueurs, Vlahovic. où il a touché le ballon, où il a couru, c'est dans son propre camp, quoi. C'est effarant. À part le but, qui n'est même pas dans la surface, qui est entré de la surface, puisque la Juve n'a eu aucune frappe dans la surface de l'Inter. Il n'a eu qu'une seule frappe cadrée, c'est le but. Mais voilà, Vlahovic a passé son match dans sa moitié de terrain. Et ce serait que contre l'Inter, ça pourrait passer, mais c'est des matchs qui sont habituels. Donc c'est fort aussi de la part d'Allegri, mine de rien, d'avoir le soutien de ses joueurs pour jouer de la sorte et accepter de faire ça chaque week-end. Et dans un match comme ça, devant, parce qu'il y avait 41 000 personnes, c'était le record en Serie A d'ailleurs, 41 507 spectateurs ce dimanche soir à l'Allianz Stadium. C'était le.
Donc un record pour un derby d'Italie, c'est ça?
Record tout court, puisque le dernier record, c'était en 2018, 41 495. Donc,
Ah, d'accord, ok.
on ne me demande pas les 12 sièges en plus, pourquoi? Est-ce que c'était dans le secteur visiteur? Est-ce que, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est record à l'Allianz Stadium pour la Serie A, ce match de hier soir.
Ouais, en tout cas, je sais pas si tu as ressenti ça, mais moi, je voyais vraiment qu'il y avait deux équipes pour qui le match nul convenait très bien, quoi. La Juve n'attaquait pas beaucoup, comme tu viens de le dire, où les attaquants passaient beaucoup leur temps dans leur camp, et l'Inter qui prenait vraiment pas de risques. D'ailleurs, dans le temps additionnel, à part Cuadrado qui a tenté des trucs tout seul, il n'y a pas vraiment eu d'attaque très forte, quoi. Il n'y a pas eu une équipe qui a poussé l'autre ou quoi. On voyait que les deux étaient très prudentes, parce que une défaite, ça peut faire très très mal dans le contexte là. Et en plus, enfin, la Juve n'a jamais que 2 points de retard et l'Inter reste en tête. Donc au final, ça contente un peu tout le monde et peut-être qu'ils prendront des points autre part. Donc ça j'ai quand même ça m'a un peu déçu pour le spectacle, mais ça peut se comprendre au niveau de la stratégie d'être d'accord sur le match nul.
D'ailleurs, à la fin du match, Allegri a reconnu que lui, il était content du résultat. Inzaghi a mis un peu plus les formes en disant qu'il était venu pour gagner, mais que vu le scénario, il se contentait du match nul. Mais oui, effectivement, on a vu surtout, ben, l'Inter a eu 65% du temps de ballon. C'est ça, je crois que c'est la plus grosse possession sur la saison. Parce qu'on sait que l'Inter, cette saison, aime bien, d'ailleurs, ça s'est encore vu avec le but, aime bien plutôt de cette saison jouer plus en attaque rapide. Et donc, à partir de son camp, il ne peut plus être dans cette longue possession comme on avait pu avoir au début d'Inzaghi. Mais voilà, tu as 65% du temps le ballon et au final, tu n'en fais rien en fait. Ça a été des passes latérales, ça a été parce que le bloc en face était bien en place. Et sûrement aussi, Inzaghi a été vacciné de la saison passée. Tu te souviens, j'imagine très bien, des deux derbies. Tu les perds 2 à 0, ces deux derbies d'Italie. À Turin, 2 à 0, 2 buts en première période, alors que la Juve ne fait pas grand-chose, et puis derrière, il ferme. Et puis à domicile, tu perds 1 à 0, un but de Kostic, et là, c'est la même chose. Et ce match-là, c'est pareil, l'Inter a 65 ou 70% du temps le ballon, et n'arrive pas à marquer. Donc je pense qu'Inzaghi a eu peur, quand il est revenu un partout, de dire, si on en prend un autre, on reviendra pas une deuxième fois. Donc,
Ouais, c'est ça.
il
Ouais,
est surpris.
il fallait pas prendre trop de risques. Hein. Et puis, ouais, comme j'ai dit, ça sert à rien. T'as 2 points d'avance, t'es quand même devant. Ne risque pas d'être dépassé parce que t'as été trop gourmand, en fait.
Oui.
Donc, au niveau stratégique, ça peut se comprendre, quoi. Même si c'est un peu décevant de sortir de là avec juste un point. Mais avec du recul, c'est un bon point. Voilà.
Surtout vu le calendrier qui va venir, puisque tu vas à Naples dès ce dimanche. Dans 2 3 semaines, tu vas à Rome pour affronter la Lazio, même si ce n'est pas une équipe en grande, grande forme, malgré tout. C'est une équipe de qualité. Inzaghi a plutôt du mal lorsqu'il revient. Affronter son ancienne équipe depuis qu'il est à l'Inter. Donc voilà, il y a aussi ça, c'est que tu as un calendrier compliqué, tu as quelques absents. Donc encore une fois, c'est très italien, sûrement aussi dans le mode de pensée. Quand tu parlais tout à l'heure de la première ligue, peut-être en première ligue, c'est sûr que Pep Guardiola, il n'aurait pas dit il y a un partout, je m'en contente, c'est pas grave. Non, il pousse toujours pour aller chercher le 2-1. En Italie.
Après, Guardiola, il a des joueurs sur le banc
Oui.
d'autres qualités aussi.
Ah non, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, les changements, pour terminer sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé de la part
Un peu
d'Inzaghi?
tardif.
Poste pour poste, c'est tardif.
Ouais, un peu tardif. Parce que je trouvais qu'il fallait faire des changements au niveau des ailes plus tôt. Parce que ça allait pas. Enfin, Di Marco et Dumfries n'avaient pas les idées pour arriver à contrecarrer les plans. Mais bon, Cuadrado, tu l'as dit, n'était pas à 100%. La solution à gauche, c'était Carlos Augusto. Bah, on sait qu'il a besoin d'espace aussi, comme dit Marco. Et c'était prévu que ça aille, comment, qui tombe dans le même piège, en fait. Donc, un peu tard au niveau des ailiers. Je pense que Carlos Augusto, je l'aurais fait rentrer plus tôt. Et surtout, Je ne comprends pas pourquoi Fratesi doit rentrer à la place de Barella. Pourquoi Barella et Fratesi peuvent pas jouer ensemble? Mkhitaryan, c'était totalement évident que ça allait pas. J'avais peur même qu'il me coûte un but ou qu'il gâche une opportunité de but. Donc pour moi, Fratesi, ça aurait été plus intéressant de le voir avec Barella, donc à la place de Mkhitaryan. C'est juste le petit regret que j'ai. Sinon, c'est assez bon. Thuram est resté suffisamment longtemps. Il fallait essayer quelque chose d'autre devant. Il y avait Arnautovic qui était dispo. Donc voilà, juste au niveau des pistons que j'ai quelque chose à redire. Et toi?
Oui, effectivement. Après, je pense qu'il avait prévu les deux pistons ensemble. D'ailleurs, il a expliqué aussi qu'il a fait rentrer en même temps parce qu'il a perdu les centimètres de Dumfries. On sait que ce coup de pied arrêté, la Juve est dangereuse. Et du coup, il a rajouté les centimètres perdus en quelque sorte avec Carlos Augusto, qui est plus grand que Di Marco. Donc, il les a fait au même moment, les changements aussi sur les côtés par rapport à ça pour garder dans les marquages, sur les coups de pied arrêtés, à peu près les mêmes centimètres, plus ou moins. Et sur Fratesi, je suis d'accord en un sens. C'est vrai qu'ils ont déjà parfois joué ensemble à l'Inter. Ils jouent souvent ensemble en national. C'était le cas contre l'Ukraine. Ils étaient tous les deux titulaires.
Oh, c'est ça, ouais.
Après, encore une fois, je pense qu'Inzaghi est dans le côté Mkhitaryan. C'est le cerveau de l'équipe. Et même s'il n'est pas bon, il fait le travail, il fait les couvertures préventives, il fait ces choses-là que Fratesi fait très mal. Les couvertures préventives, c'est une catastrophe, Fratesi, pour l'instant. Il a encore du mal là-dessus. Mais bon, ça va venir. Il travaille, il est encore jeune et il va rentrer dans le truc. Mais je pense que c'était vraiment le côté équilibre, encore une fois. Et même si il préfère un Mkhitaryan mauvais à un Fratesi qui peut-être va créer des choses, mais peut aussi risquer. Et dans sa logique d'équilibre sur le match, ça se comprend.
Dumfries, palla buona per Barella, la profondità su Thuram che anticipa Bremer, prova ad andare al cross, traiettoria per Lautaro, il tiro, è gol, 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 il Toro, il Toro, il Toro, 1-1, mettiamo le cose, mettiamo il puntino sullo Inter, 1-1.
Voilà, donc ici, mercredi, on va jouer contre Benfica. Ça va être à Benfica, ouais, c'est ça. Et donc dimanche prochain, ça va être au Napoli. Donc ça va être un match compliqué. Enfin, je pense au Napoli. Benfica, on a déjà qualifié. Maintenant, c'est la course à la première place avec la Real Sociedad. Je pense qu'Inzaghi va faire tourner mercredi. Peut-être pas mettre l'équipe B totale, mais on va voir. De toute façon, Sanchez ne sera pas là, Bastoni n'est pas là, Pavard n'est pas là. C'est tout, hein, je pense. Il y a juste
Oui, oui,
cela.
alors Sanchez, il y a un petit espoir, peut-être qu'il soit sur le banc, mais quoi qu'il arrive, il ne sera pas titulaire. Donc oui, alors j'espère qu'il y aura Bissek titulaire, parce que vu qu'il n'y a plus que quatre défenseurs pour trois places, ce serait dommage de risquer de perdre un Acerbi ou un Darmian. Donc ce serait bien que l'un des deux puisse souffler. Et puis Bissek, moi j'ai bien aimé contre le Salzbourg sur sa première mi-temps. Donc j'aimerais bien le revoir. Et je pense que l'occasion est bonne. Aslani, qui n'a pas été titulaire depuis le match de Ligue des Champions contre Real Sociedad, mais qui fait de bonnes entrées et qui est encore rentré d'ailleurs en fin de match ce dimanche. J'aimerais bien le voir titulaire aussi, de nouveau. Fratesi aussi, bien sûr. Bon, Carlos Augusto, maintenant, il est titulaire à chaque match de Ligue des Champions. Il sera sûrement de nouveau là encore. Et puis ben, Arnautovic pour faire souffler quelqu'un devant, même si tu sais tout le bien que je ne pense pas de l'attaquant autrichien. Il sera utile pour faire souffler l'un des deux sur le match.
Ben ouais, je suis d'accord. Donc, à mon avis, Inzaghi va mettre un, voilà, va faire souffler quelques joueurs. Ce sera pas une équipe B totale, mais c'est l'occasion. Je pense pas qu'il va risquer de blesser des joueurs, d'en perdre pour le match contre le Napoli, qui sera très important. Parce que voilà, même si c'est que Mazzarri qui est le remplaçant. On peut penser ce qu'on veut de lui. À chaque fois qu'un entraîneur arrive dans une équipe, bah, l'équipe joue mieux quelque temps. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. Bah, en tout cas, merci Cédric. Et bah, du coup, voilà, on a fait un petit épisode express ici sur ce derby. On s'entend avant la trêve. Je pense que c'est un bon timing pour finir l'année.
Effectivement, je pense que ben, bon, on a du mal parfois à tenir nos engagements, mais aux alentours de
Ha
Après le match contre la Sociedad, ça pourrait être pas mal pour faire un point Ligue des Champions, comme c'est le 14-15 décembre. Donc, ça peut être pas mal à ce moment-là. Le Napoli sera passé, sera juste avant la Lazio. Ça peut être un bon petit moment pour faire un point série à Ligue des Champions. Sachant que, je vous le rappelle en passant, il suffit de battre la Real Sociedad à San Siro dans 2 semaines pour être premier du groupe. Si tu bats Benfica, tu peux te permettre de faire match nul contre la Real Sociedad, peut-être, si la Real Sociedad ne gagne pas contre Salzbourg dans le même temps. Enfin, il y a peine que 2 cas de figure. Et voilà, le match contre Benfica, il vaut surtout pour les points UEFA et pour les 2,8 millions d'euros de primes, qui, vu la situation financière de l'Inter,
Prendre.
on prend. Moi, je prendrais personnellement. Donc,
Ben ouais, après, comme tu as dit, il y aura la Lazio, il y aura la Coppa, il y aura Lecce et on termine l'année contre le Genoa. Voilà, pour un peu le petit point du calendrier. Allez, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cet épisode et du coup, on s'entend bientôt. Ciao à tous.
Ciao.
C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canalé. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et pour toutes les coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter et Instagram. Alla prossima, fratelli nell'Azzurri.